Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Et on continue avec l'actu des JO.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et on est toujours avec Stephen Brun, Frédéric Weiss, Renaud Longuèvre et Eric Dimeco. Et aujourd'hui, eh bien, la flamme olympique va quitter Athènes. En tout cas, la France va récupérer le flambeau. La flamme quittera Athènes demain. Julien Richard est sur place. Salut Julien.
Salut le Super Moscato Show.
Départ par la mer.
Salut Steve.
Arrivé à Marseille à bord du Belém. Le Belém qui est un bateau classé monument historique, Julien.
Ouais, c'est le plus vieux voilier français encore en activité. 127 ans, 22 voiles et ce 3 mois qui transportait des fèves de cacao à la base entre le Brésil, au départ de Belém, donc d'où son nom, et la France à la fin du 19e siècle.
Je vous souhaite la bienvenue à bord. C'est votre future maison.
Et hier, ce sont des jeunes matelots qui sont montés à bord de ce Belém. 16 jeunes sélectionnés pour effectuer les 12 jours de traversée vers Marseille, avec un parcours de vie parfois un peu cabossé, ou des jeunes très impliqués dans le secteur associatif, comme ces deux Marseillais, Yacine et Wari, 19 et 20 ans.
C'est un honneur, c'est un truc de grandiose que j'aurais jamais imaginé dans ma vie. C'est la plus grosse responsabilité que j'ai eue de toute ma vie, parce que je représente tous les jeunes à l'échelle internationale, toute la Terre, pour les Jeux Olympiques. C'est énorme, c'est... de responsabilité.
Je pensais, qu'est-ce que ça représente les JO, enfin, surtout la flamme des Jeux Olympiques, c'est un symbole de paix dans le monde et tout, et tout ce qu'elle représente au niveau mondial, c'est ça qui est grandiose.
Alors cette flamme, elle sera ici, dans le grand roof. Hein, qui est...
Et cette flamme, elle sera donc transportée dans une lanterne sécurisée, avec un gardien dédié qui veillera sa sécurité, à ce qu'elle reste bien allumée, et elle sera posée dans la salle de vie du Belém. Écoutez le capitaine du navire, Aymeric Gibet.
C'est-à-dire que la flamme, elle sera visible de tous en permanence. Donc cette idée de considérer un peu la flamme comme un passager, alors très très VIP, très discret peut-être, mais qu'il faut surveiller surtout pour qu'elle ne s'éteigne pas. Au début, on va l'accueillir dans le salon. Puis on verra aussi, selon les conditions météo, si on peut la déplacer à bord. Moi, je ne m'interdis pas qu'elle puisse visiter un peu l'ensemble du bateau. Elle voyagera aussi, elle déambulera sur le bateau pour sûr.
Départ demain 10h, direction Marseille, donc connexion entre deux villes antiques, Athènes et la cité phocéenne fondée par les Grecs. En passant par des lieux spectaculaires, il y aura le canal de Corinthe, détroit de Messine avec un petit salut au Stromboli, le volcan entré dans les eaux territoriales françaises par les bouches de Bonifacio. Le tout sous bonne escorte puisqu'une frégate de l'armée française accompagnera en permanence le Belém sur son parcours. Reste une question, à savoir qui descendra la flamme de ce Belém à Marseille le 8 mai pour se quitter. Yacine et Wari, nos deux Marseillais n'ont qu'un nom en tête.
3, 2, 1, Zidane. Zinedine Zidane.
Et on sera là pour le constater, puisque le Super Moscato Show sera en direct de Marseille le 8 mai. Eric, tu porteras la flamme, tu t'entraînes dur.
Hein, j'essaie de faire les 400 mètres qu'on me demande de faire.
Et c'est peut-être Zizou qui va te passer le flambeau. Hein,
pas du tout, non, moi bon. Je suis le 9 fin d'après-midi.
Ah, d'accord. Tu sais qui te le passe et à qui tu le passes?
Alors, je crois que ça va être autour du stade Vélodrome et ça va être, il y aura que des sportifs. Donc, il y a Fabien Gillot, il y a JPP, il y a le petit Sarrazin, là, donc on a reçu l'autre jour. Mmh. Donc, je sais pas qui me passe, à qui je passe, je sais pas.
Et Zizou, tu crois?
Ah, le bruit court.
Ah, tu le sais.
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non,
non,
non, c'est, alors, je vais, non, non, je peux pas, je le sais pas du tout. Je le sais pas du tout. Et je connais des gens très proches de l'organisation qui, soit ne le savent pas, soit sont muets comme des tombes. Donc, j'arrive pas à le savoir. Moi, je pensais que c'était Flo Manaudou. Je pensais que Laure allait le passer à Florent. Moi, je pensais que l'image était.
Après, il y a une autre rumeur. Il y a Zizou et il y a Marcelino, peut-être, qui reviendra descendre du bateau.
Non, mais là, j'ai peur qu'il passe en voiture, l'a récupéré, qu'il parte à Villarreal avec.
On retrouvera Julien début de la cérémonie. On zappe l'Olympisme et on va en venir à un autre événement du week-end. C'est la finale du tournoi Destination Féminin. France-Angleterre à Chamond-Delmas à Bordeaux demain à 17h45. Winnie Claret, bonjour.
Salut tout le monde.
Alors, on pose quand même une question. Il y a un grand chelem en jeu pour l'une ou l'autre des deux équipes, mais on n'a pas battu l'Angleterre depuis 2012. On se demande si vraiment c'est possible de les battre cette fois-ci.
2018. Alors oui, est-ce qu'effectivement on peut battre ces Anglaises qui jouent, qui franchissent, qui attaquent? C'est l'équipe qui entre pénètrent le plus souvent dans les 22 mètres adverses. Les Anglaises plaquent fort, plus de 91% de plaquages réussis, c'est la meilleure moyenne du tournoi. Les Anglaises sont conquérantes. Résultat, le 15 de la Rose a pris large en tête destination. 38 essais marqués en 4 journées, donc plus de 9 essais en moyenne par match. C'est le double des Bleus, tout simplement. L'Angleterre est portée par des avants massives et pourtant mobiles, mais surtout un triangle arrière de feu. Les ailières Jess Bridge et Abido et l'arrière Ellie Kilden à L3. Elles ont marqué 8 essais contre l'Irlande le week-end dernier. Alors on fait comment juste pour battre les premières mondiales? Le credo des Bleus cette semaine, c'est de se concentrer sur leur propre jeu, mettre la main sur le ballon, être propre dans les rucks pour pouvoir jouer vite, sortir les bras et faire la passe de plus. Alors ça, les avants et les trois quarts tricolores savent parfaitement le faire. La France est l'équipe qui fait le plus de passes après contact. Et puis, décaler sur nos ailes à nous, avec deux avions en réaction, Marine Ménager et la setiste Johanna Griset. D'ailleurs, les duels sur les ailes promettent d'être savoureux à Chaban-Delmas. On nous souffle aussi que les Françaises concoctent quelques surprises aux Anglaises, notamment sur le jeu au pied, mais on n'en sait pas plus. Autre point fort des Bleus, la mêlée, 100% de réussite pour le 15 de France, là où les Red Roses ne passent pas la barre des 80%.
Attends, tu veux dire 100%, c'est-à-dire qu'on gagne toutes nos mêlées fermées?
Toutes nos mêlées depuis le début, les mêlées ordonnées fermées, on les gagne. Elles passent pas la barre des 80% de réussite, les Anglaises. Voilà.
Renaud, t'as écouté très attentivement le papier de Winnie. T'as l'air assez sceptique. Hein. Je te sens pas très chaud.
Non, j'ai déjà regardé quelques matchs de justement des France-Angleterre et on n'est pas loin, mais il faut démystifier un petit peu ça. Donc il faut arriver à les battre pour peut-être.
Agathe Socha nous disait en début de semaine que les conditions de travail sont vraiment pas les mêmes, que le professionnalisme en Angleterre
est en train de se développer dans le championnat anglais, donc des clubs avec des infrastructures professionnelles.
C'est en avance sur nous, le rugby anglais.
Oui, considérablement.
Une petite supériorité physique et du coup qui donne un petit avantage.
Tu le
vois
un petit peu dans les gabarits des filles, les Anglaises.
Oui.
Mais avec le coach, c'est pas la même chose, hein, quand même. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais. Pas vrai, Winnie?
Absolument, Fred. Je sais pas qui t'a dit ça, mais quelqu'un vraiment avisé. L'ancien sélectionneur des All Blacks masculin, oui, qui est venu entraîner les Anglaises. C'est quand même aussi.
Pas les mêmes moyens.
Ce sera sur RMC demain, 17h45, à Bordeaux. Dernier mot de tennis, avec des nouvelles de Raphaël Nadal. C'est notre feuilleton du printemps. Raphaël Nadal qui a passé son premier tour à Madrid en écrabouillant Darwin Blanche, 6-1, 6-0. Ça va se compliquer demain face à Alex de Minaur, 11e mondial, et qui a battu Nadal à Barcelone la semaine dernière. D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusions, Rafa.
I try to play at my 100%, but
j'essaye de jouer à 100%, mais je ne peux pas me donner à 100% tous les jours. Le fait est qu'avant, la plupart du temps, j'étais capable de donner le meilleur de mes capacités. Aujourd'hui, mes capacités sont parfois à 40%, parfois à 60%, parfois à 70%. Et si je suis capable d'augmenter ce pourcentage jour après jour ou semaine après semaine, pourquoi pas à l'avenir? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si ce n'est pas le cas, c'est impossible. Et ça n'a pas de sens.
If not, it's impossible. And don't make sense.
Ça veut dire qu'il a écrabouillé le pauvre Blanche à 40%.
Il lui faut combien pour... Il a joué contre moi hier. Tu mettais à la place de Blanche la même chose.
Tu faisais mieux, non? Tu faisais 1-1.
Il faut arrêter le boulot.
Il est capable de battre une vainqueur de Wimbledon, donc il doit pouvoir.
Il a toujours pas battu.
Je sais pas.
Tu te la pètes trop.
Il a pas dit oui pour jouer surtout.
Le gamin, il t'éclate, tu es sûr?
Bien sûr qu'il m'éclate, mais je sais pas qui a eu cette idée d'inviter un gamin sur un Masters 1000 qui est plus de 1000e mondial. Il s'est fait détruire, il a pas encore le niveau. Donc en fait c'est un match qui a servi à rien pour Rafael Nadal. Il a rien appris. Zéro enseignement.
Je vais essayer de passer de 40 à 60, ça sent vraiment mauvais quand même.
Est-ce que t'as déjà vu, et là encore une fois c'est encore un truc surprenant chez Nadal, dire avant d'affronter Alex de Minaur, je ne me sens pas capable de battre Alex de Minaur. T'as déjà entendu des propos comme ça dans la bouche de Nadal?
Jamais.
Ça n'a jamais existé. Ça veut dire qu'il doit vraiment partir de loin. Ouais.